Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Nicolas Sarkozy n'a plus le choix. L'ancien président devra témoigner au procès des sondages de l'Élysée. La justice en a donné l'ordre. Explication dans un instant. Elle grimpe. La taxe foncière, c'est la facture dont se passeraient bien les propriétaires et qui entame chaque année un peu plus leurs revenus. Le gouvernement fera des annonces avant la fin de la semaine contre la flambée des prix à la pompe. D'ici là, les distributeurs rivalisent de coups de pouce pour attirer la clientèle. Un père de famille en garde à vue dans la Drôme. Il a proféré des menaces de mort dans le collège de son fils, sanctionné pour avoir crié « Allah Akbar » pendant un hommage à Samuel Paty. Nous irons sur place. Un coup d'œil sur PSG Leipzig au Parc des Princes. On est en phase de poule de la Ligue des Champions. Cédric Chasseur, que donne le score?
Un partout à la mi-temps. Le but d'Mbappé à la 9e. Égalisation d'André Silva pour Leipzig à la 28e. Et c'est bien payé pour Paris parce que Leipzig a eu les meilleures occasions dans cette première période.
Merci Cédric, on vous retrouve évidemment à la fin de ce journal. La météo estivale du jour n'était pas faite pour durer, point complet avec Marlène Duré à suivre. Le bonus à l'achat d'une voiture électrique qui devrait être prolongé, on en parlera avec notre invité Eco à 22h20.
Europe 1.
C'est une décision rarissime au procès des sondages de l'Élysée. Le tribunal judiciaire de Paris ordonne que Nicolas Sarkozy soit amené en tant que témoin. L'ancien président n'est pas mis en cause dans ce dossier en raison de son immunité présidentielle, mais en aucun cas il ne pourra se soustraire à cette convocation, Marion Gauthier.
Oui, et s'il ne vient pas de lui-même, la force publique pourra être employée. Des gendarmes l'amèneraient jusqu'à la barre. Nicolas Sarkozy ne peut pas être mis en cause, mais il peut témoigner sans que cela porte atteinte à l'immunité présidentielle, estime le tribunal. La défense a fait valoir que l'ancien président était le principal ordonnateur des sondages. Le tribunal conclut que sa parole est nécessaire à la manifestation de la vérité. Enfin, se réjouit Jérôme Carsenti. Il est l'avocat de l'association Anticor qui a cité Nicolas Sarkozy comme témoin en 2016.
Le message qui est envoyé par la justice aujourd'hui aux hommes politiques est très important parce qu'il vient dire « vous êtes les égaux des citoyens que vous gouvernez ». C'est un moment important de justice, je crois qu'aujourd'hui nous venons de vivre.
Tout ça c'est du spectacle, glisse un avocat de la défense. Le refus de Nicolas Sarkozy de se présenter a dû froisser le tribunal, ironise-t-il. L'ancien locataire de l'Élysée est convoqué le 2 novembre.
Marion Gauthier. Il n'en restera qu'un après le congrès des Républicains, mais la photo de famille était belle ce matin quand les candidats de la droite à la candidature ont pris la pause, affichant leur unité à la même table. Invité ce soir de Laurence Ferrari sur Europe 1, Éric Ciotti en faisait partie. Pour le député LR, il existe bien un espace pour la droite dans cette présidentielle. Éric Ciotti en veut pour preuve la politique d'Emmanuel Macron qu'il accuse de manquer de fermeté pour défendre la laïcité.
Monsieur Macron est très fort pour communiquer. Quand j'ai débattu d'amendements à l'Assemblée nationale pour interdire le port du voile pour les fillettes, pour interdire le burkini sur les plages ou dans les piscines, pour interdire le voile dans les bureaux de vote pour les assesseurs, quand on a demandé l'interdiction de port de signes religieux pour les accompagnants scolaires, on a subi un rejet systématique. Il y avait des instructions de l'Élysée, d'ailleurs contre l'avis même du ministre de l'Éducation nationale, qui lui était plus allant sur ces questions, parce qu'il sait les menaces que cela représente. Ce pouvoir dit tout et ce contraire, et au final, il demeure immobile.
Éric Ciotti avec Laurence Ferrari dans Punchline. Le candidat renchérit sur la proposition de sa concurrente Valérie Pécresse, invitée à la même place hier sur Europe 1 et qui propose de supprimer 150 000 postes dans l'administration. Eh bien, Éric Ciotti promet pour sa part d'aller jusqu'à 250 000 suppressions de postes de fonctionnaires. La taxe foncière fait décidément bien mal au portefeuille. Elle a augmenté de 28% en 10 ans. Nantes, Lille et Angers montent sur un podium dont elle se serait bien passée, celui des villes où cette taxe foncière a le plus augmenté, mais cette envolée est générale, comme s'en agace Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers.
Les propriétaires, cette année, ils ont mis la main à la poche pour 35 milliards d'euros. Il y a 10 ans, c'était 23 milliards d'euros. C'est un peu la solution de facilité pour les maires et les collectivités locales. C'est vrai d'un autre côté qu'il faut toujours plus d'argent. Et c'est vrai qu'il y a la suppression de la taxe d'habitation qui entre maintenant en jeu et qui va rebattre les cartes. Et c'est vrai que tout ça, c'est beaucoup d'inquiétude. Jusqu'où ça va aller? Je pense qu'il faudrait que tout le monde se calme et qu'on trouve une solution ou au moins une règle d'or pour stabiliser tout ça. L'État a été capable d'encadrer les loyers. L'UNPI, nous qui défendons les propriétaires, on propose tout simplement que ce soit les taxes foncières qui soient encadrées.
Le message est passé. Christophe Demerson, président de l'UNPI, avec Romain Desarbres dans Europe Midi. C'est promis, la réponse ne va plus tarder. Le gouvernement dévoilera à la fin de la semaine sa solution pour compenser la flambée des prix à la pompe. On se dirige vers un chèque carburant pour les ménages les plus modestes. En attendant, c'est la grande distribution qui s'empare du sujet, Emmanuel Dutheil, et qui fait un geste pour ses clients.
Oui, hein, et ce n'est pas du tout un hasard, le carburant est un produit d'appel très important pour la grande distribution. C'est là que la plupart des Français se fournissent. La grande distribution représente plus de 60% de la vente des carburants en France. C'est pour cela qu'elle vend ses carburants environ 10 centimes de moins que dans les stations classiques. Il était donc urgent de faire un geste pour envoyer un signal aux consommateurs. Leclerc, très habitué des opérations choc, lance donc à coups de pleine page de pub le carburant à prix coûtant jusqu'à la fin du mois. Carrefour, lui, lance une remise sous forme de bon d'achat de 5 euros en caisse pour chaque plein d'au moins 25 litres. Ça commence demain et là aussi, ça va durer jusqu'à la fin du mois. Tout ça, c'est une manière de répondre au gouvernement qui a demandé aux distributeurs, notamment qui ont des stations-service, de faire un effort. En attendant, cette fois, le chèque carburant du gouvernement, les annonces devraient intervenir d'ici à la fin de la semaine. Une idée qui semble simple sur le papier, mais compliquée à mettre en place, nous disait hier Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. À Valence, dans la Drôme, un père de famille est en garde à vue pour avoir proféré des menaces de mort dans le collège de son fils. Âgé de 11 ans, cet élève venait de recevoir un avertissement pour avoir perturbé un hommage à Samuel Paty en pleine salle de classe, Jean-Luc Boujon.
En fait, tout commence durant l'hommage à Samuel Paty dans le collège, vendredi matin, pendant la minute de silence observée dans toutes les classes. Un élève de 5e se met à crier « Allah Akbar ». L'incident choque énormément, son professeur le recadre, l'invite à réfléchir à ce qu'il vient de faire et le garçon propose lui-même de s'excuser auprès de l'enseignant et de ses camarades. Il reçoit ensuite un avertissement et c'est là que son père entre en scène durant l'entretien téléphonique avec la direction de l'établissement. Le père se félicite du comportement de son fils, mais les choses ne s'arrêtent pas là, explique Pascal Clément, inspecteur d'Académie de la Drôme.
Le père de l'élève a eu un comportement violent et agressif, d'abord au téléphone, et puis ensuite le lundi matin, en s'introduisant dans l'établissement de force et en menaçant les personnels qui étaient à l'accueil du collège. Il affiche très ostensiblement de ne pas partager les valeurs de notre République. Évidemment, les propos sont inacceptables, aussi bien en référence à Samuel Paty que vis-à-vis des personnels de l'établissement.
Le père, un agent d'entretien de 43 ans, a été placé en garde à vue. Une expertise psychiatrique est en cours. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé une Bible, deux livres salafistes ainsi qu'un sabre. L'homme était déjà connu des services de police pour des faits anciens.
Jean-Luc Boujon, un suspect a avoué être à l'origine des menaces de mort contre un couple d'enseignants de l'académie d'Aix-Marseille. On vous en parlait hier sur Europe 1. L'un des courriers de menaces reçus contenait une photo de Samuel Paty. L'auteur des lettres qui est passé aux aveux est un artisan avec lequel le couple était en conflit pour des malfaçons lors de travaux à leur domicile. Le suspect ne présente pas de signe de radicalisation. Il a été placé en garde à vue. Un nouveau récit terrifiant a été livré aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre. Des otages qui s'étaient massés dans un couloir du Bataclan témoignent. Gladys Laffitte, vous suivez le procès pour Europe 1. C'est le récit, Gladys, d'un face-à-face de près de 3 heures entre 11 otages et 2 terroristes.
Ah oui, un huis clos terrifiant avec deux terroristes qui s'amusent à tuer des gens, décrit David Alabar comme en apnée. Il a 23 ans à l'époque et suspendu à une fenêtre quand un homme en blanc lui intime de rentrer à l'intérieur. Celui qui essaye de faire le justicier, je le tue, prévient-il. Assis de part et d'autre sur le sol bleu de ce tout petit couloir, contre la porte, sous les fenêtres, les djihadistes s'adressent à eux presque comme des potes, dit David. Un coup part tout seul alors que l'un d'eux recharge son arme. Quel calage de merde, dit l'assaillant en rigolant. Celui-là est calme. Semble être le chef, l'autre est plus déterminé à répandre la mort. Il n'entend plus d'une oreille à force de tirer. Il demande alors à Grégory de lui répéter tout ce qu'il entend de la salle. Des râles, des cris, détaille cet informaticien. Il voit l'un d'eux faire un footing sur place en disant « Je suis chaud pour la faire durer cette prise d'otage ». Mais chacun perçoit leur improvisation. Ils sont d'ailleurs surpris de l'assaut de la BRI. Quand David est évacué, il regarde la fosse. Et là, la culpabilité, est-ce que je n'ai pas collaboré ? Se demande-t-il en concluant son terrible récit.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Une nouvelle expérimentation contre le squat des halls d'immeubles, un phénomène souvent associé au trafic de drogue. Dans Civil Test, les squatteurs seront verbalisés. Ils recevront une amende forfaitaire de 200 € à Créteil, Foix, Reims, Marseille, Grenoble, ainsi qu'à Rennes, Sandrine Prioul.
Oui, un flagrant délit et un aveu suffisent donc à verbaliser un adulte à hauteur de 200 €, 150 si l'amende est payée tout de suite. Parmi les nouveaux délits sanctionnés sous cette forme de forfait et attendus par les forces de l'ordre, il y a le squat des halls d'immeubles. Ces amendes justifient Philippe Astruc, le procureur du parquet de Rennes. C'est une réponse pénale rapide et efficace, dit-il. Il était l'invité d'Europe 1 la mi-journée.
Ça va beaucoup plus vite et puis il y a un intérêt pour le contrevenant, c'est que la sanction en termes d'amende est moins élevée que s'il s'agissait d'une procédure classique. Donc finalement, l'objectif, c'est d'essayer d'apporter une réponse concrète, rapide à un problème que nous avons par exemple sur Rennes, en gros entre 5 et 10 escaliers, avec des groupes qui occupent illicitement ces halls d'immeubles, notamment pour faire du trafic de stupéfiants.
Ce procureur qui signale que déjà 350 000 amendes forfaitaires ont été délivrées depuis leur mise en place en 2018, notamment depuis quelques mois pour flagrant délit de consommation de stupéfiants.
Sandrine Prioul. La campagne de vaccination contre la grippe prend de l'avance. Elle va débuter dès ce vendredi, c'est-à-dire 4 jours plus tôt que prévu pour les personnes à risque. L'idée, elle est toute simple, c'est de faire d'une pierre deux coups, vacciner contre la grippe en même temps que la 3e dose de vaccin anti-Covid. Bruno Lina est virologue au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique.
On est en train de voir qu'il est utile d'arriver à combiner au moment du même acte vaccination, la vaccination contre la grippe et la vaccination contre le Covid pour la 3e dose du schéma vaccinal complet des plus fragiles. Il faut bien comprendre qu'on est dans une situation qui est un petit peu une inconnue, puisque on sait qu'on n'a pas eu de circulation du virus, on sait qu'en termes d'immunité collective, il y a eu un petit peu moins d'immunité collective développée l'hiver dernier, puisqu'il n'y a pas eu ces 2 à 6 millions d'infectés. Mais toutefois, ça ne signifie pas que ça place la population générale dans une situation de risque. Ce qu'il convient de faire, c'est d'être vigilant, d'être prudent, en particulier en renforçant la vaccination vers les plus fragiles. Quand on voit à quel point le vaccin contre le coronavirus permet d'éviter les formes graves chez les plus fragiles, on se dit que ce serait vraiment une occasion manquée de ne pas faire la même chose avec la vaccination contre la grippe.
Le professeur Bruno Lina avec Afsane Saboui. Les constructeurs automobiles vendent beaucoup moins qu'ils ne le devraient. La moitié des usines Renault en Europe sont à l'arrêt cette semaine. Le point de blocage est toujours le même, la pénurie mondiale de composants électroniques, ces fameux semi-conducteurs. La crise s'installe dans la durée et tous les constructeurs sont touchés, Aurélien Fleureau.
Oui, c'est vrai que c'est une crise inédite hein, par son impact aussi durable. Cela fait maintenant des mois que les lignes de production marchent au ralenti et l'approvisionnement en semi-conducteurs ne s'est pas amélioré, notamment parce que la situation sanitaire s'est détériorée en Malaisie, hein, où se trouve l'un des plus grands producteurs de ces puces électroniques qui servent aussi bien pour le système ABS que pour les tableaux de bord numériques. Du côté de Renault, après Flins, Douai et Dieppe, ce sont donc les usines de Sandouville et de Batilly qui sont à l'arrêt. Les carnets de commandes sont pourtant pleins et comme chez tous les constructeurs, Stellantis, Toyota, c'est une gestion quotidienne de la pénurie selon les pièces disponibles et qui se mettent en place de manière durable.
Ouais, la conséquence de tout ça, elle se ressent naturellement chez les candidats à l'achat d'une nouvelle voiture. En ce moment, le moyen le plus rapide d'en trouver une, c'est bien d'aller sur le marché de l'occasion. Aurélien, un marché qui décolle.
Oui, effectivement, c'est l'occasion qui profite de cette baisse, là aussi durable, des ventes sur le marché du neuf, encore moins 23% sur un an en septembre. Et ce sont environ 3 millions de véhicules qui ne seront pas produits en Europe en 2021. Et les clients à qui l'on annonce des délais de plus de 6 mois se tournent donc vers ces offres d'occasion récentes, reconditionnées, comme le constate Romain Baucher, directeur général d'Aramis Auto en France.
Les clients qui viennent nous voir aujourd'hui, ils se tournent vers nous parce qu'on a une offre alternative qui est parfaite pour eux, qui sont les véhicules d'occasion reconditionnés. Ce sont des véhicules récents, peu kilométrés, qui sont du coup équipés technologiquement comme les véhicules neufs qui sortent aujourd'hui des usines.
C'est une tendance de fond, hein. Les usines de reconditionnement se multiplient en France, que ce soit Renault à Flins ou de la part du groupe Émile Frey dans la Vienne et bientôt à Lens, ce sera au printemps prochain.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Une grosse frayeur pour les 21 passagers d'un avion au Texas. L'appareil s'est écrasé peu après son décollage près de Houston. Tous les passagers et membres d'équipage sont sains et saufs. Ils ont réussi à s'extraire juste avant que l'avion ne prenne feu. Le PSG reçoit ce soir Leipzig en troisième journée de poule de la Ligue des Champions. Cédric Chasseur, vous nous faites vivre ce match en direct du Parc des Princes. Cédric, comment s'en sortent les Parisiens ?
Eh bien, c'est compliqué. 54 minutes de jeu tout pile au Parc des Princes. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et Leipzig. C'est Mbappé qui avait ouvert la marque à la 9e. Réponse d'André Silva à la 28e. Et les meilleures occasions sont donc pour Leipzig depuis le début de cette rencontre. Navas est intervenu déjà à 3 reprises. Il a été aussi sauvé par son montant en milieu de première période. Et depuis la reprise, les Parisiens sont un peu en difficulté. Il y a eu un très bon coup franc, notamment d'Nkunku, alors que Verratti s'implique dans la surface et il est repris à la dernière seconde. Le Paris Saint-Germain pousse un petit peu, mais c'est compliqué face à cette équipe de Leipzig qui est bien regroupée et qui gêne cette équipe du PSG. 54 minutes, 55 minutes même maintenant, et un but partout entre le PSG et Leipzig.
Merci Cédric Chasseur, on retournera avec vous au Parc des Princes juste avant les coups de 22h30 sur Europe 1. Le temps pour ce mercredi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Au Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
Demain, Marlène Duret, eh bien demain, c'est la fin de la parenthèse enchantée. Hein. C'est terminé tout ça.
Oui Alexandre, c'était le dernier coup de chaud avant la saison des châtaignes et des potimarrons. Oui, aujourd'hui,
c'est bien aussi.
Oui, c'est bien aussi. Aujourd'hui, 25 degrés ont été atteints régulièrement jusqu'au nord de la Loire. 30 degrés dans le Pays Basque et le sud des Landes. La baisse des températures commence demain, mais c'est surtout jeudi et vendredi qu'on va le sentir. Gare aux rubes. On regarde quand même les températures maximales pour demain. Elles sont généralement comprises entre 17 degrés à Brest et 22 à Mulhouse ou Grenoble, mais elles peuvent atteindre encore les 24 à 27 degrés dans le sud-ouest. Le beau temps, pour répondre définitivement à votre question, le beau temps va se maintenir seulement le long des frontières de l'Est et du côté des Pyrénées. Demain, ailleurs, on change de régime. On peut se préparer aux perturbations automnales et ça commence ce soir. Comme prévu, on en a une assez active qui aborde en ce moment la Bretagne. Elle s'accompagne de pluie et de vent, prête à traverser le pays. On l'attend demain matin des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes à la Normandie et au Nord-Pas-de-Calais. Elle va traverser l'île de France dans la matinée et puis l'après-midi, eh bien, elle s'étendra du Nord-Aquitaine au Grand Est en se renforçant au niveau des pluies sur le Massif central et la Bourgogne-Franche-Comté. Une fois la perturbation passée, des éclaircies peuvent percer, mais on aura quand même droit à des averses. Et puis à noter aussi du côté de la Méditerranée, des entrées maritimes plutôt sous forme nuageuse ont tendance un petit peu à s'étaler là, en direction des Cévennes, de l'Ardèche et du Var. Et puis je vous le dis, dès maintenant, on remet ça la nuit suivante avec un nouveau passage pluvieux et un coup de vent. Et on en reparlera.
On en reparlera. On se retrouve tout à l'heure à minuit, Marlène, pour un dernier point météo avec vous. Dans un instant, Top à Wall Street avec Didier Hameau, l'invité éco à 22h20, Cécile Goubet de l'Association pour le développement de la mobilité électrique. A tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Il est 22h19, c'est Top à Wall Street avec Didier Hameau. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui repart à la hausse ce soir dans le sillage du pétrole qui atteint son plus haut sommet depuis 7 ans.
Wall Street remonte après un début de semaine hésitant. Oui, le pétrole culmine au plus haut depuis 2014. 83$, un petit peu plus même. Le Dow Jones prend ce soir 0,56%, 35 457 points. Le Nasdaq plus 0,71%, 15 129 points. Un pétrole encore en hausse d'1,3%. Le baril donc 83,37$ exactement. Les pays producteurs de pétrole n'arrivent pas à suivre la cadence de pompage face à la demande qui est croissante et donc ça donne tout le secteur en hausse, le secteur pétrolier. Exxon prend encore 1,5%, Shell plus 0,9%, Schlumberger plus 1%, Halliburton plus 0,1%. Les valeurs de technologie grimpent aussi. Apple plus 1,5%, Microsoft plus 0,3%, Google plus 0,6%. Alors, c'est pas très spectaculaire mais ça monte quand même. Amazon est à peu près stable. Facebook plus 1,4% à $340. Sur les devises, c'est plus calme. L'euro campe au-dessus des 1,16 face au dollar.
Et la Bourse de Paris a terminé en légère baisse dans un marché calme.
Oui, très calme. Hein. Moins 0,05%. Pas grand-chose sur le CAC 40. 6 670 points. La tendance a quand même été alourdie par Danone en recul de 3% à 55,61 € après ses comptes trimestriels. La direction du groupe Danone s'attend à une accélération généralisée de la hausse des prix du lait, des ingrédients, des emballages, des coûts logistiques. Bref, une pression inflationniste qui risque de se ressentir dans les résultats annuels du groupe Danone et ça fait baisser, ça fait plier la valeur de 3% ce soir. D'autres grandes valeurs reculent aussi, comme Air France, moins 3%, Faurecia et Valeo. Vous en parliez avec les pénuries de puces électroniques. Et bien, tout le secteur automobile est en baisse ce soir.
À exception du jour, Didier, le secteur des foncières a tenté un petit sursaut.
Petit mieux, oui. Les foncières qui ont connu un parcours délicat en raison des confinements successifs ces derniers mois. Mercialis rebondit de 7% après ses comptes trimestriels. Clépierre rebondit aussi de 4,5%. Unibail plus 3,7% à 63,52€. Ailleurs, les autres places financières sont en légère hausse à l'image de Francfort plus 0,2%. Milan plus 0,2% aussi avec Londres. Bruxelles plus 0,5%. En revanche, donc, le CAC 40 en légère baisse ce soir de 0,05%. 6670 points.
Merci Didier Hamot de Boursier.com. Allez, bonne nouvelle, si vous voulez investir dans un véhicule électrique mais que vous hésitez encore à vous lancer, eh bien le bonus à l'achat d'une voiture électrique devrait être prolongé. Pour en parler ce soir sur Europe 1, l'invité éco est Cécile Goubet, déléguée générale de l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Elle répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Cécile Goubet.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de l'AVER. L'AVER, c'est l'association qui milite pour la mobilité électrique. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est qu'il y a peut-être une bonne nouvelle à venir pour les acheteurs de voitures électriques. En effet, selon le journal Les Échos, le gouvernement aurait décidé de reporter de 6 mois la baisse prévue de 1 000 euros du bonus à compter de début 2022. Cette baisse interviendrait donc seulement à compter de juillet 2022. J'imagine que c'est une très bonne nouvelle pour maintenir à un haut niveau les ventes de voitures électriques, Cécile Goubet ?
Alors, le maintien du bonus pendant 6 mois supplémentaires est évidemment une très bonne nouvelle si elle se confirme pour les acheteurs de véhicules électriques. Et elle s'inscrit par ailleurs dans un contexte un peu particulier qui est lié en fait à la reprise économique et à la difficulté de pouvoir s'approvisionner en différents matériaux et composants pour les constructeurs, ce qui va permettre de leur donner un petit peu aussi d'oxygène de façon à pouvoir assurer les livraisons de véhicules, tout simplement.
Ah, effectivement, il y a deux points très importants dans ce que vous dites. Alors, on va commencer par le premier. Maintenir le bonus, c'est purement psychologique, mais ça permet l'acte d'achat, ça permet de passer à l'électrique.
On sait aujourd'hui que le différentiel de prix entre les véhicules thermiques et leur équivalent électrique reste en moyenne de 10 000 euros. Donc les dispositifs d'incitation à l'achat qui existent aujourd'hui permettent de gommer en fait partiellement ces écarts et doivent impérativement être maintenus tant que la parité d'achat n'est pas au rendez-vous. Les études qui ont été faites, qui sont sorties en fait cette année, démontrent que avec des hypothèses ambitieuse, mais on devrait arriver à une parité de prix à horizon 2026-2027. Donc en attendant, il faut quand même maintenir des dispositifs d'aide, puisqu'en fait, tout simplement, le portefeuille des gens n'est pas extensible.
Donc autre point très important dans ce que vous dites, Cécile Goubet, c'est que si on le maintient, ça permet aux gens de pouvoir acheter ces voitures qui ne sont pas livrables pour le moment. Ça leur permet d'attendre un petit peu avant de prendre leur décision et de pouvoir avoir cette voiture.
Ça permet à la fois à l'écosystème de la mobilité électrique et aux usagers de la mobilité électrique d'avoir un petit peu plus de latitude par rapport à leur décision d'achat dans un contexte un petit peu tendu.
On a l'impression que ça y est, le verrou psychologique est en train progressivement de se casser, de se lever pour l'achat d'une voiture électrique. Au-delà même là, de la question des bonus, parce que jusque-là, le principal problème, c'était la peur de la panne sèche. Est-ce que vous avez cette impression ?
On voit aujourd'hui qu'il y a une très belle dynamique sur les ventes de véhicules électriques qui se retrouvent partout en Europe, et y compris en France. Sur les déploiements de points de recharge, cette année, on est déjà à plus 30% de déploiements, ce qui explique aussi une facilité d'accès à la recharge qui s'améliore et qui, du coup, va permettre progressivement de lever cette anxiété d'accès à la recharge.
Parce qu'il y a quand même encore du travail, c'est-à-dire que le gouvernement n'arrête pas de nous dire « on lance un plan batterie », mais quand on regarde réellement dans les chiffres, faire un Lille-Marseille en voiture électrique, c'est possible, mais c'est quand même tendu aujourd'hui.
Il y a deux questions dans votre propos. Le premier, c'est la question des déploiements industriels et la capacité de la France en fait à pouvoir capter sur le territoire national la production de batteries. Et ça, c'est en cours. Et après, il y a la question de est-ce que nous avons aujourd'hui des véhicules qui sont en mesure de prendre la route et de faire de longs trajets. Et oui, c'est le cas. Les véhicules qui sortent depuis maintenant plusieurs années et ceux qui sont encore plus récents sont des véhicules qui ont entre 450 et au-dessus de 500 km d'autonomie et des dispositifs leur permettant d'avoir accès à de la charge haute puissance nécessaire pour les longs trajets, qui permettent d'aborder quand même les choses vraiment beaucoup plus sereinement.
On peut dire qu'on arrive à une sorte de point de basculement, d'après vous, pour le marché électrique aujourd'hui ?
La bascule vers le véhicule électrique, on sait qu'elle est là. On frise quand même les 20% de parts de marché aujourd'hui sur les véhicules électrifiés rechargeables. Néanmoins, tous les efforts qui sont déployés depuis maintenant quelques années doivent absolument être maintenus, puisque tout n'est pas encore joué. Il y a un vrai engouement. Les utilisateurs de véhicules électriques sont à 97% satisfaits de leur véhicule. Néanmoins, on est encore à 1,5% du parc, alors qu'on doit progressivement aller vers la moitié du parc à horizon 2030-2035.
Oui, le patron de Valeo, l'autre jour, qui est l'un des plus gros équipementiers français, disait sur Europe 1, une fois qu'ils sont passés à l'électrique, ils ne veulent pas revenir en arrière. Donc pour lui, c'était sûr, le marché électrique ne pouvait que devenir le seul marché quasiment demain. C'est votre sentiment aussi ?
Tout à fait. Le véhicule électrique a un agrément de conduite qui est absolument incomparable, ne serait-ce qu'en termes de fluidité de la conduite. Il n'y a plus d'à-coups liés au passage de vitesse. On a l'impression en fait d'être un peu sur un tapis volant et les niveaux sonores et de vibrations sont vraiment moindres. Et du coup, effectivement, ce qu'on voit dans nos études, notamment avec Ipsos, qu'on a mené l'année dernière auprès de plus de 3000 utilisateurs de véhicules électriques, c'est qu'on a 97% d'usagers de véhicules électriques qui sont très satisfaits. Des proportions pareilles de niveau de satisfaction, c'est assez rare sur ce type d'études. Donc cela montre bien que une fois qu'on a essayé le véhicule électrique, on est conquis.
Alors l'AVER, hein, c'est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Vous représentez l'ensemble de l'écosystème de cette mobilité électrique. Il y a un gros souci quand même aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ces batteries, puisqu'à un moment où le marché électrique est en train de s'envoler, on n'a pas réglé la question du recyclage de ces batteries électriques. Vous êtes mobilisé également sur cette question.
Alors, la question du recyclage des batteries, au contraire, elle est quand même bien adressée aujourd'hui et bien traitée, dans la mesure où, d'une part, il y a des obligations de recyclage des batteries qui existent au niveau européen. Les acteurs sont aujourd'hui capables de recycler plus de 80% du contenu des batteries et derrière de pouvoir refaire des cellules pour faire des packs batteries, ce qui permet de réduire encore de façon plus importante l'impact environnemental de la production de la batterie. En revanche, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que la directive batterie au niveau européen est en cours de révision et va encore renforcer les objectifs et les obligations de recyclage des batteries. La question, ça va être à quel niveau, avec plein de questions aussi, notamment sur des passeports, de façon à pouvoir bien tracer tout le sourcing des batteries.
Un grand merci à vous, Cécile Goubet. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'AVER, association qui milite pour la mobilité électrique. Nous, on se retrouve jeudi, puisque demain soir, grande soirée de football à suivre sur Europe 1, soirée de Ligue des Champions autour de Lille. À jeudi.
Merci Emmanuel Dutheil. On vous retrouve tout de même demain de 13h à 14h sur Europe 1 pour La France Bouge avec Elisabeth Assayag.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Voyons, tiens, les unes de vos quotidiens pour ces mercredis 20 octobre. Macron face à la colère qui monte sur le prix du carburant, titre l'Opinion, alors que l'exécutif peine à trouver la bonne mesure pour calmer le jeu. Cette question du prix des carburants obsède le gouvernement et avant tout les Français, bien évidemment. Et dans cette question, Emmanuel Macron veut éviter la fronde, titre Le Figaro, alors que la bataille du pouvoir d'achat agite cette campagne présidentielle, cette pré-campagne. Eh bien, le chef de l'État espère éviter un retour des gilets jaunes. La question des pénuries post-Covid, on vous en parlait encore dans le journal, on vous parlait des semi-conducteurs qui manquent cruellement à l'industrie automobile. Eh bien, Libé se demande, y aura-t-il des jouets à Noël et des smartphones et des étagères mises à mal par des mois de pandémie? Voilà que les chaînes de production et d'approvisionnement ne parviennent plus désormais, nous en sommes tous témoins, à suivre et les ruptures de stock se multiplient. 22h30 sur Europe 1, coup d'œil rapide. rapide à la situation au Parc des Princes. C'est PSG Leipzig en Ligue des Champions. Cédric Chasseur, Paris vient de revenir au score.
Oui, c'est toujours l'égalité, mais c'est deux partout désormais. Leipzig avait donné l'avantage, avait pris l'avantage grâce à un but de Mukiele, mais il y a quelques instants, c'est Messi qui a permis au Paris Saint-Germain d'égaliser sur le seul tir de la deuxième période du Paris Saint-Germain en difficulté, mais qui tient pour l'instant ce point du match nul. Il reste 20 minutes au Parc des Princes et c'est donc le score de deux partout entre le PSG et Leipzig.
Merci Cédric Chasseur en direct du Parc des Princes pour Europe 1. 22h31, c'est l'heure de la libre antenne d'Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Vous croisez les doigts bien évidemment, les yeux rivés sur l'écran.
Exactement, bien évidemment. J'ai eu la chance de pouvoir assister à la première mi-temps. Très difficile. Ah, ouais. Oui, au Parc, exactement. Ouais, ouais. D'où ma voix un petit peu cassée, puisque nous avons marqué un but.
Ceci explique cela. D'accord.
Exactement. Exactement. Ouais. Bah, écoutez, on est parti pour une bonne soirée, en tout cas. Et puis, on se retrouve tout à l'heure à partir de 23h.
À tout à l'heure, Olivier.
À tout à l'heure.